Le Monde en direct sur la Première.
18h11, votre dose quotidienne de géopolitique place à un jour une carte.
D'ici quelques jours, le pape Léon XIV célébrera une messe en la basilique de Barcelone, touche finale de son périple en Espagne continentale, Jean-Pierre.
Et place donc à un jour une carte.
D'ici quelques jours, le pape Léon XIV célébrera une messe en la basilique de Barcelone, touche finale de son périple en Espagne continentale, Jean-Pierre.
Et ce sera l'occasion d'inaugurer la plus haute tour de cet édifice qui en compte 18. 18 tours de ce style architectural très particulier, parfois qualifié de surréalisme intégral, ou alors d'une beauté terrifiante et comestible, pour citer le peintre Salvador Dalí. Ces tours qui ressemblent à ce que les enfants peuvent faire avec du sable mouillé coulant entre leurs doigts et s'accumulant en petites tours sur la plage, par exemple. Celles de Gaudi sont évidemment bien plus solides, faites de pierre et de beaucoup de béton. Imaginée il y a presque 150 ans, au démarrage de la révolution industrielle, elle a toujours eu vocation de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la marque, la signature d'une ville catalane et fière de l'être. La réunion de la grande famille catalane, disait le poète Maragall. Voilà une première revendication politique. Mais il y en a d'autres, plus discrètes. Car si Antoni Gaudi a toujours été considéré comme exubérant, délirant, voire complètement fou, il était aussi imprégné de religions plutôt réactionnaires. Selon le journal Le Monde, une statue présente dans l'édifice en est l'illustration. Elle figure un démon qui tend vers un homme, non pas une pomme, mais bien une bombe constellée de boulons. Le diable remet à un ouvrier la tentation de la violence. À l'époque, en fin du XIXe siècle, la révolution industrielle est en place à Barcelone, la lutte des classes est en cours et peu de temps auparavant, un terroriste a lancé une bombe qui a fait 22 morts à l'opéra de Barcelone pour toucher la haute bourgeoisie locale.
Que vient faire Antoni Gaudi dans cette histoire ?
Eh bien, il en est indigné de cet attentat. Il rejoint ceux qui pensent qu'il faut remettre les valeurs morales et conservatrices de l'Église au cœur de la société. Il est d'ailleurs à ce moment-là dans la droite ligne du pape de l'époque. Au Vatican, on promeut à ce moment-là des associations de dévots qui non seulement prêchent la bonne parole du respect des hiérarchies sociales et de la réaction face aux révolutions. C'est une de ces associations dites de Saint-Joseph qui va récolter des fonds pour la construction d'un édifice intitulé le temple expiatoire de la Sainte Famille. L'argent va affluer dans un premier temps pour lancer le projet. Afflux qui va diminuer en fonction des évolutions de la société et de son plus grand libéralisme, de la diminution du fait religieux. Cela aura donc pris près d'un siècle et demi donc pour arriver à quelque chose maintenant.
Et aujourd'hui, Jean-Pierre, précisément, les travaux ne sont toujours pas terminés.
Mais l'argent afflue bien. Celui des visiteurs, essentiellement de touristes. Ils ne sont pas tous loin de là d'être des pieux dévots conservateurs de l'Église, mais quand même, l'an dernier, 135 millions d'euros ont ainsi été récoltés, la moitié pour terminer la construction, l'autre pour le denier du culte. Et puis pour terminer, un dernier clin d'œil de cette chronique. Qui était le pape si enclin aux valeurs morales de l'époque ? Il s'appelait Léon XIII. C'est donc son successeur, Léon XIV, qui vient boucler la boucle. L'histoire, c'est comme dans les cathédrales, ça résonne là-dedans.
Merci à vous, Jean-Pierre Jacquemin. C'était Un jour, une carte. 18h14, le RTB.